France Culture.
Salle des archives. Mathieu Garrigou-Lagrange.
France Culture, salle des archives. Jacques Chirac ne s'arrête jamais. Épisode 3, le caméléon politique. Nous avons laissé Jacques Chirac, maire de Paris, en route pour une campagne législative de 1986, au cours de laquelle il va prôner un libéralisme presque régagnant. Comme d'autres dirigeants des années 80 dans le sillage du président américain, Jacques Chirac a en effet eu son moment ultralibéral, idéologie qui inspire, en partie, son deuxième passage à Matignon entre 1986 et 1988. Un certain Dominique Strauss-Kahn dénonçait alors sa politique économique à l'Assemblée nationale. C'était le 29 juillet 1986, au moment de la loi sur les privatisations d'entreprises comme la Société Générale, Paribas, Suez, Matra ou encore TF1.
Vous n'avez pas le courage de choisir entre le libéralisme que vous affichez et la réalité que vous connaissez. Vous allez désorganiser notre économie en absorbant toutes les ressources financières du marché. Vous préparez une commission d'évaluation où, après avoir placé les copains, vous allez vendre aux copains. Vous ne faites tout cela que pour financer des promesses fiscales inconsidérées dont vous espérez qu'elles vont vous rapporter des voix. Vous sacrifiez aux vôtres l'avenir de la France, il est plus que temps d'appeler l'Assemblée nationale à voter la censure.
Quelques années plus tard, c'est le même Dominique Strauss-Kahn, ministre de Lionel Jospin, qui allait privatiser France Télécom, le Crédit Lyonnais, l'aérospatial, Thomson, Le Gann et d'autres, tandis que Chirac ferait sa campagne de 1995 sur la fracture sociale. Comme quoi, accéder au pouvoir fait changer les perspectives. Il faut dire que Jacques Chirac est parfois difficile à situer politiquement parlant. S'il est issu d'une famille de laïcs et de francs-maçons, il milite brièvement pour le Parti communiste alors qu'il est encore étudiant à Sciences Po. On le verra même vendre l'UMA durant quelques semaines devant l'église Saint-Sulpice à Paris, ce qui lui vaudra d'être fiché par la police et réprimandé par ses parents. Dans ses mémoires, il écrit que ce n'est pas la théorie marxiste qui l'a tiré vers le Parti communiste, mais la quête d'un idéal humaniste et non violent. Il y raconte comment l'assassinat du Mahatma Gandhi, le 31 janvier 1948, l'avait profondément touché, comment il avait signé l'appel de Stockholm pour demander l'interdiction des armes nucléaires. Et c'est pourtant ce même homme qui reprendra les essais nucléaires en Polynésie française après une suspension de 3 ans décidée par son prédécesseur François Mitterrand. En 1996, le même Chirac y mettra fin définitivement. Décidément, accéder au pouvoir fait changer les perspectives. Vraiment, il n'est pas simple de situer politiquement Chirac. Et cela ne date pas d'hier, archives du 13 décembre 1972.
Vous venez de la Corrèze. Or, la Corrèze a une tradition de gauche. Et vous êtes entré dans la majorité. Alors pourquoi ce choix de la majorité? Pourquoi n'avez-vous pas choisi l'opposition? C'est peut-être parce que dans l'opposition, on ne fait pas carrière.
Non, je n'ai pas choisi l'opposition. Non, ceci appelle plusieurs observations. D'abord, je n'ai pas choisi l'opposition, parce qu'avant d'aller en Corrèze, j'étais déjà dans la majorité. C'est vrai que ça correspondait à l'idée que je me faisais des choses. Bien. Ensuite, je me suis présenté en 1967, et sans ambiguïté dans la majorité, à une époque où un certain nombre pensait que peut-être les meilleures formules pour faire carrière étaient précisément d'aller dans l'opposition. Et vous dites, la Corrèze est un pays de gauche, et vous êtes dans la majorité. Là encore, c'est une affirmation à laquelle je ne peux pas souscrire.
Une tradition.
Mais que la Corrèze est une tradition de gauche, c'est indiscutable. Mais prétendre que la majorité n'a pas de tradition de gauche est une erreur fondamentale.
Vous êtes un homme de gauche ?
Vous savez, qu'est-ce que ça veut dire exactement, n'est-ce pas? Si être un homme de gauche est être, en vérité, sensible plus particulièrement au progrès social, et je crois que la majorité l'a témoigné, car aucune majorité politique dans l'histoire de France n'a fait autant de progrès sociaux que la majorité actuelle, et notamment depuis 3 ou 4 ans, alors, effectivement, je suis un homme de gauche. Je crois que ces notions traditionnelles de gauche et de droite relèvent plutôt de l'époque où un certain nombre de gens avaient pour conception politique la nécessité de lever le pied gauche chaque fois qu'ils voyaient un prêtre pour conjurer le sort, que de la réalité politique actuelle. Tout ça ne veut pas dire grand-chose.
Annie Colloval, vous êtes sociologue, spécialiste de la droite, professeur émérite de sciences politiques à l'Université Paris-Nanterre. Vous avez publié Jacques Chirac et le gaullisme aux éditions Belin. Qu'entendez-vous dans cette archive ?
Il connaît très bien, en fait, le Limousin, la Corrèze. Hein. Il est même conseiller municipal de Sainte-Féréol, donc un petit bourg à côté. Mais surtout, il va non pas reprendre les idées de gauche ou de droite, il va reprendre à son compte la pratique politique qu'on peut appeler RADSOC.
Donc centriste.
Centriste, radical socialiste, à la Queuille, si vous voulez, Henri Queuille, le clientélisme, qui permet de distribuer des biens.
Donc le clientélisme, c'est faire plaisir aux électeurs. C'est quoi le clientélisme?
Bon, pas forcément en fait aux électeurs, mais à ceux qui les représentent. Et par exemple, on est dans une époque, les années 1960, où le développement rural n'est pas encore très poussé. Et la Corrèze est une région relativement pauvre. Elle est paysanne, pauvre, et il y a plein de problèmes sur l'infrastructure à résoudre, les routes, le téléphone, le train. Et une des stratégies de Chirac, qui va reprendre d'ailleurs à la mairie de Paris, ça va être de faire le tour, non pas en fait des électeurs, comme on le dit, mais des élus locaux. Élus locaux qui sont soit communistes, soit socialistes, soit radicaux-socialistes, et il leur demande quels sont les besoins de la commune, etc. Et avant même d'être élu, il va utiliser les ressources administratives et financières propres au cabinet de Georges Pompidou. Donc il va faire construire des routes, des écoles, etc.
Donc au fond, il profite de sa position à Paris pour gagner l'élection sur le terrain, en faisant finalement consensus auprès de tous
Absolument.
Les élus, de toutes les tendances.
Absolument. Il va rallier à lui des gens qui, initialement, n'étaient pas forcément en fait acquis, mais qui vont lui reconnaître une efficacité très forte et la possibilité de faire avancer quand même un certain nombre de choses.
Comment allez-vous? C'est gentil d'être venu ce dimanche matin pour nous accueillir. Bonjour Marcel, comment ça va? Jean-Saint, comment allez-vous? Tranquille, va, M. Couder, ça va? Votre santé, ça se maintient? Comment allez-vous? Bonjour monsieur.
Autre aspect très amusant, enfin, me semble-t-il, dans la stratégie d'implantation de Jacques Chirac en Corrèze, il va changer, si l'on peut dire, son identité. À Paris, il est vu un peu à l'égal de Giscard, hein, comme un énarque brillant, à qui tout réussit, très cassant, hautain. En Corrèze, il va changer de présentation de soi, il va mettre en avant, dans ses origines familiales, non pas son père, qui est devenu un PDG très important, lui-même étant né à Paris, quand même, arrêtons de dire que c'est un Corrézien, c'est un Parisien. Fraction de la bourgeoisie récente, mais quand même. Bon. Alors que là-bas, il va se présenter comme le fils de son grand-père, instituteur, laïcard, franc-maçon, très proche des gens. Et c'est là où il va apprendre à serrer les mains, d'où son surnom un peu plus tard, Serre la Louche. Hein. Il est très bon là-dessus, très convaincant. Hein. Et d'autant plus en fait convaincant qu'il va être aidé par encore une fois ses ressources administratives, notamment le préfet qui va le suivre et qui va mettre en place une série de fichiers avec les prénoms des gens, leurs familles, etc. Du coup, lorsqu'il sort dans la rue ou dans les cours de ferme, comme il a l'habitude de le faire, il connaît le prénom de celui qu'il rencontre, il pose des questions sur la femme et les enfants.
Mais est-ce qu'on peut considérer, dans l'archive il dit que la majorité a une tradition de gauche. Est-ce qu'on peut considérer que le gaullisme dont se revendique Jacques Chirac a une tradition de gauche, Annie Colleval?
Alors, de manière étonnante, je vais répondre oui. Le gaullisme, vous avez bon, d'abord toute une fraction de ce qu'on a appelé les gaullistes de gauche, hein, le gaullisme social, qui n'est pas la tradition de Jacques Chirac. Hein. Mais quand on se reporte à l'époque, le gaullisme de Pompidou, bon, par exemple, ça n'a rien à voir avec le libéralisme qui est porté par Giscard. C'est ce qu'on peut appeler, et ce que d'autres avant moi ont appelé, qui ont fait enquête sur la manière de travailler de Georges Pompidou, un modernisateur jacobin. C'est-à-dire avec le sens de l'État, le sens de la justice sociale, la redistribution, mais le conservatisme.
L'ordre.
L'ordre, l'industrialisation, les patrons, c'est important, mais avec un sens de l'État et un sens de la justice sociale.
Alors, il faut dire que Jacques Chirac avait eu à Sciences Po des amitiés de gauche, et notamment, il était un ami de Michel Rocard. Rocard avait même essayé de faire en sorte qu'il adhère à la SFIO. Pour vous, Annie Colleval, c'est significatif de quelque chose, ça, en termes de positionnement politique, cette amitié-là?
Non, non. Non, c'est des amitiés de jeunesse. Bon, voilà, mais sauf qu'à un certain moment, je crois que Chirac dit qu'il reconnaît, donc il est très anti-communiste, il aime pas beaucoup les socialistes, hein, mais par contre, il avoue une certaine reconnaissance à ce qu'il appelle la social-démocratie, qui va être dans les années 70, lancé par Rocard, hein, la deuxième gauche, justement sur les thèmes que vous évoquiez initialement, les thèmes économiques. Les thèmes économiques, dans les années 70, vont se politiser très fortement, aussi bien à droite, hein, avec Giscard, etc., qu'à gauche. Il y a une confrontation très forte entre les communistes, les socialistes et la deuxième gauche rocardienne. En tous les cas, non, on peut pas dire que ça a eu une influence sur sa manière de penser et de conduire la politique qui va être la sienne.
Et le petit engagement de vente de l'humanité devant Saint-Sulpice à Paris, ça ne signifie rien ?
Bon, ma foi, il faudra vérifier, mais bon, voilà. Jeunesse se passe.
Est-ce qu'on peut dire de Chirac, selon vous, qu'il était de droite et de gauche?
Non. Non, c'est un homme de droite. C'est un homme de droite. D'ailleurs, il le dit, c'est pas ma faute si j'ai une gueule de droite. Donc, il est de droite, mais en même temps, il a des positions qui lui sont propres contre son camp. Bon, c'est quand même quelqu'un qui vote contre la peine de mort, qui va soutenir Simone Veil lors des débats sur l'avortement. Et Dieu sait que en tant que gaulliste, les députés, de son camp ont été abominables contre Simone Veil. Il était là.
Il est vrai que le général de Gaulle, dont se réclamait Jacques Chirac, se considérait comme au-dessus des partis. Ni droite, ni gauche, donc, mais à la fin tout de même de droite. Ce positionnement gaulliste, qu'on pourrait qualifier de droite sociale, correspond-il à Jacques Chirac? Autrement dit, à quel point était-il gaulliste? Nous sommes allés voir dans la salle des archives ce qu'il avait pu dire à ce sujet.
Le mouvement gaulliste a toujours eu une certaine originalité, je dirais à la fois politique et sociologique, et qui tient à son inspiration, qui tient au fait que ce n'est pas un parti à proprement parler, mais qu'il se veut un rassemblement. Il y a plus qu'une nuance, que l'on retrouve d'ailleurs dans ses structures et dans son comportement. Et il n'a pas du tout l'intention de changer, ni de changer de vocation, ni de changer de comportement. Il correspond à une certaine sensibilité de l'opinion publique, et donc il s'affirme comme tel. C'est la raison pour laquelle j'ai dit que vis-à-vis du pays, nous étions et que nous resterions nous-mêmes.
Pardonnez-moi, mais vous en êtes arrivé à un point où vous êtes beaucoup plus chiracien que gaulliste.
Vous connaissez, ça c'est également une affirmation. Il faudrait d'abord savoir, qu'est-ce que le gaullisme?
En 77.
En 77. Et je dirais, de façon permanente, le gaullisme n'est pas lié à la personne du général de Gaulle.
Nous raconte cette archive à Nicolas Val.
Le gaullisme, c'est un héritage qui est très particulier ou qui a été construit historiquement comme une entreprise charismatique, donc irreprenable. Et quel que soit en fait le successeur, donc lui comme d'autres, mais surtout il y a des luttes de définition de gaullisme qui sont extrêmement vivaces et qui visent justement à régler en fait des conflits bon politiques. Quand il dit bon c'est pas un parti, il vient de créer en fait le RPR en 1976. Dire que ça a fait événement, c'est un euphémisme. Ça a créé un véritable scandale.
De reprendre l'héritage de De Gaulle.
Oui, et de créer un parti. Lui, en fait, son intention, c'était de continuer dans la lignée de Pompidou, c'est-à-dire de rationaliser le gaullisme et de créer, en fait, un parti sur le mode américain, la grande entreprise électorale. Voilà, bon. Mais c'est pas du tout ce qui lui arrive. Ça crée un scandale. Je sais pas si on s'en souvient, mais quand je me suis reportée, en fait, aux archives, hein, j'ai été stupéfaite par la violence des contestations et des critiques.
Parce qu'on considérait, les gaullistes historiques considéraient que Chirac ne méritait pas, au fond,
était un traître.
De récupérer cette étiquette.
C'était en fait un pompidolien traître à De Gaulle et qui ne devait pas prendre la succession. Et là, vous avez quand même des épithètes extrêmement violents qui sont lancés. C'est l'époque où Chirac est vu comme un fasciste. Donc, fasciste, brute sans âme, vulgaire, arriviste, qui écrase tout sur son passage. Et donc, vraiment, là, c'est l'indignité qui est mise en avant. Il est indigne de reprendre... Vous comprenez bien que quand on l'interroge moins d'un an plus tard sur c'est quoi le gaullisme, il va pas vous dire que c'est un parti politique. Il n'a pas envie de revivre, si on peut dire, ce qu'il a vécu auparavant.
Mais c'est vrai qu'entre le général De Gaulle et Jacques Chirac, malgré tout, il y a tout un monde, ne serait-ce que dans le style. Enfin, ce sont quand même deux personnalités politiques extrêmement différentes, qu'on n'a pas envie de mettre sur le même plan, certainement pas, mais même dans une filiation directe.
Là, ce que vous êtes en train de dire est extrêmement intéressant. C'est-à-dire que dans le gaullisme, les caractéristiques de la personne, voire la biographie même de la personne, sont des arguments pour justifier qu'il est un bon héritier ou pas. Or, toute la stratégie de ces critiques en 1976, ça va être de reprendre, bon, par exemple, son physique. Il est très grand. Alors, il y a des discussions. Est-ce qu'il a la même taille que De Gaulle, 1m93, 1m90 bon, mais dans les années 72, il est vu comme le beau gosse. Hein, bon, grand, un peu acteur américain, etc. À partir de 1976, il est vu comme un grand échalas, agité, brutal. D'ailleurs, il a le menton à la Mussolini, il a les épaules de brut. Donc voilà, son physique va devenir l'incarnation même de l'envers de l'héritier gaulliste. Et de la même manière, il y a des choses amusantes qui se passent à ce moment-là. La comparaison, en fait, avec De Gaulle. Alors que je rappelle qu'il ne s'oppose pas, en fait, en héritier de De Gaulle. Il s'oppose en continuateur de Pompidou. C'est pas tout à fait la même chose.
Sur l'Europe, Chirac a parfois eu la tentation de se donner une stature gaullienne. En décembre 1978, il est à l'hôpital Cochin où il se remet d'un accident de voiture sur les routes de Corrèze. Le 6 de ce mois, celui qui a fondé le RPR 2 ans plus tôt fait paraître dans la presse un texte depuis son lit de convalescence, une diatribe contre la communauté européenne, mais qui vise surtout son rival à la présidentielle, Valéry Giscard d'Estaing. Il l'accuse en effet de faire allégeance aux forces européennes et supranationales. Pour lui, la majorité gouvernementale giscardienne veut dissoudre la nation dans un projet européen qu'il qualifie de « parti de l'étranger ». L'Europe fédérale, prônée par Giscard, serait selon lui une atteinte à la souveraineté nationale française. Cet appel n'a pas été enregistré car il s'agissait d'une déclaration écrite. Mais Jacques Chirac en a donné une version orale quelques semaines plus tard, lors d'un meeting pour les élections européennes.
Que vienne la tempête, et nous voici debout. Nous n'aimons pas rester au port quand le destin se forge en haute mer. Nous n'avons pas le ton feutré des salons quand l'avenir du pays est en cause. Nous sommes incommodes, peut-être, impatients, sans doute, à d'autres les caressantes paroles du renoncement, à nous l'inconfort de l'honneur. Voilà pourquoi j'ai lancé l'appel du 6 décembre. Cette Europe de l'impuissance, cette Europe ouverte comme une passoire à toutes les crises du monde, cette Europe non européenne, mais dominée par les intérêts germano-américains, cette Europe du chômage importé, cette Europe mollusque, sans corps et sans dessein véritable, cette Europe où les sociétés multinationales dictent leurs lois aux États, cette Europe où la France serait engluée comme dans un marécage, cette Europe-là, nous ne l'accepterons jamais.
Ce discours a été écrit, vous le savez, par Pierre Juillet et Marie-France Garraud.
Qui étaient les deux conseillers de l'ombre de Jacques Chirac et pour qui Jacques Chirac a été une sorte, dit-on, en tous les cas, de marionnette.
Oui, ce qu'on a appelé les éminences noires. Et qui reprennent, en fait, le vocabulaire gaullien.
Et le style aussi. Enfin,
le style, oui.
C'est vrai
le
que,
style,
par exemple, l'inconfort de l'honneur, c'est un terme qui pourrait avoir sa place dans la bouche du général de Gaulle.
Oui, tout à fait. Tout comme il parle de l'affaiblissement de la France. Ça, c'est... Bon, voilà, là, ça fait sursauter, en fait, de la gaulliste, c'est pas possible, bien. Et ça va faire un four, hein. Ça va faire un four. Hein. C'est-à-dire que la liste qui est menée par Michel Debré aux européennes, la liste DIF, la défense des intérêts de la France en Europe, va récolter autour de 12-13% face à la liste de Simone Veil, donc qui est rattachée à donc au Giscardien, qui va faire autour de 26-27%, etc. Et donc ça va faire un four. Alors, ça va être un échec, mais pour Chirac, ça va être une libération.
Ah oui. Pour quelle raison?
Ben parce que là, vous avez tous les gaullistes anciens qui montrent leur inefficacité électorale. Et que pour remporter, en fait, des élections, il faut, comme le dit Chirac après, rénover l'idéologie.
Un mot sur la dénonciation de l'Europe technocratique par Jacques Chirac. On a du mal à y croire, étant donné que lui-même est un énarque et qu'il a fait toute sa carrière dans les rouages de l'État, que c'est un technocrate quand même, Jacques Chirac.
Ah ben là, c'est vous qui le dites, mais en 1978, il est présenté comme un provincial. Vous dites que je suis un corrézien?
Oui.
Je suis un corrézien. Je suis proche des gens, je suis un peu simpliste. Oui, c'est vrai. Mais moi, je suis sur le terrain. Vous voyez, donc, il fait oublier la distance sociale qui est la sienne.
En avril 1994, France Culture consacre une émission aux 20 ans de la mort du président Georges Pompidou. Elle est produite par Patrice Gélinet, qui décide à cette occasion de demander à Jacques Chirac un témoignage sur celui dont il a été le ministre. Chirac répond sur Pompidou, bien sûr, mais on a surtout l'impression qu'il cherche à décrire en général les qualités d'un bon président de la République et on entend qu'il se les attribue lui-même. Il faut dire que la prochaine élection présidentielle est dans un an, et bien sûr, il est candidat.
Ce qu'il a laissé, finalement, c'est une cohésion sociale renforcée, c'est une France plus forte sur le plan de son industrie et de ses échanges extérieurs, c'est une Europe qui avait progressé, et une France qui y était bien intégrée, et c'est aussi une armée moderne, une armée dont il avait poursuivi, une défense dont il avait poursuivi la modernisation. Et enfin, plus généralement, le sentiment, je dirais, d'un grand démocrate. d'un homme à la fois de cœur et de raison, d'un homme d'ouverture, de culture, d'intelligence, d'un homme d'autorité, mais d'un grand démocrate. Au fond, et maintenant on le ressent, et notamment la crise nous le fait ressentir, Pompidou était un grand humaniste. Et je crois que pour diriger une vieille et grande nation comme la France, si l'on veut être fidèle à son message, et si l'on veut porter, assumer son destin, il faut être un humaniste.
Annie Colloval, une réaction sur cette archive ?
Il faut se souvenir que là, il est en concurrence pour la présidentielle avec son rival le plus proche, qui est Balladur. Et Balladur veut reprendre aussi l'héritage de Pompidou, mais sous une autre forme. Or, Chirac, lui, va insister sur la fracture sociale. Je ne sais pas si vous vous souvenez des caricatures qui ont cours à ce moment-là.
L'abbé Pierre, Jacques Chirac...
L'abbé Pierre, manger des pommes. Bon. À l'inverse de Balladur, dans sa chaise à porteurs.
Louis XVIII.
Qu'il connaît pas. Bon. Et là, si vous voulez, il est en train de défendre, moins ce qu'il est, mais plus sa position. Voilà. Il se démarque d'un concurrent direct. Donc, Et c'est un ami de 30 ans, qui est en train de le trahir.
Est-ce que le chiracisme, ça existe, Annie Colloval?
Le chiracisme, non. Je réponds comme ça, mais non. Ou alors c'est une méthode, ou alors c'est une pratique. En tous les cas, ce qu'on peut dire à partir de maintenant, si on s'en raisonne sur aujourd'hui ce qu'est devenu le parti gaulliste, on s'aperçoit que tous les centristes gaullistes sont partis et que ces centristes étaient proches de Jacques Chirac. Là, ce qui reste, ce sont les durs.
Donc où sont maintenant les héritiers de Jacques Chirac, selon vous, s'il y en a ?
Je ne sais pas. Ça, je ne peux pas vous dire.
Personne ne se revendique, en tout cas, de Jacques Chirac dans la classe politique.
Non. Sauf, peut-être pour rappeler le dernier Chirac, hein, parce qu'on peut dire qu'il a quand même énormément changé, vous avez eu une émission sur ses mémoires. Bon, ses mémoires, voilà, c'est un nouveau Chirac qui regarde l'international, la crise chez les pays sous-développés, entre guillemets, les problèmes écologiques. Voilà, c'est quelqu'un qui met en avant la souffrance sociale. Et qui essaye de la résoudre. Bon, dans les années 95, il n'en est pas encore là. Hein. C'est les autres qui le voient comme petit, mais pour se moquer un peu, et il va vite changer.
Donc le chiracisme, c'est sur l'international, finalement, plus que sur la politique nationale.
Bon, peut-être. Mais le chiracisme réganien, ça existe aussi. Le chiracisme en Corrèze, ça existe aussi. Lequel ?
Donc il y en a beaucoup ?
Oui.
Jacques Chirac est devenu un grand spécialiste de la cohabitation, puisqu'il l'a connu d'abord en tant que Premier ministre de François Mitterrand, puis en tant que président avec Lionel Jospin. Cet homme aux convictions moins arrêtées que d'autres responsables politiques, était-il spécialement armé pour l'épreuve de la cohabitation ? C'est ce que nous allons nous demander dans l'épisode qui suit. We'll be right back.